Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Vous êtes bien conscient qu'il faut moins polluer. Vous avez envisagé d'acheter une voiture électrique. Oui, mais voilà, votre concessionnaire vous avait répondu « Oui, je vous vends cette voiture, mais vous ne l'aurez pas avant des semaines, voire des mois. » Et ça, c'est dû à la pénurie de semi-conducteurs, pénurie mondiale. On en parle depuis de longues semaines sur Europe 1. Nous voulions ce soir faire à nouveau un point. Nous en parlons avec le journaliste spécialisé dans l'automobile. Bonsoir Laurent Meillot.
Bonsoir Raphaël.
Alors, cette pénurie mondiale de semi-conducteurs est liée évidemment au confinement. Que s'est-il passé ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du Covid, eh bien, les usines automobiles l'ont fermé. Il y a eu beaucoup moins de production. Il y a eu moins d'achats aussi auprès des fabricants. Et dans le même temps, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont acheté des ordinateurs parce qu'ils étaient chez eux, que leur entreprise leur a acheté. Ils ont aussi utilisé plus de jeux vidéo. Et du coup, le marché s'est un petit peu transféré, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la reprise, eh bien, finalement, les fabricants privilégient les marchés qui sont plus rémunérateurs, où il y a le plus de volume. Et donc, l'automobile, en fait, a reculé de quelques crans. On pourrait simplifier comme ça.
Et alors, c'est prévu, c'est bien parti pour durer, hein, cette pénurie, parce que les mois passent, hein, la pandémie est à peu près derrière nous aujourd'hui. Hein, plus beaucoup
oui,
de pays,
et
à
surtout,
part la
ce qu'on
Chine,
voit,
qui sont
c'est
confinés.
Que...
Mais, oui, je vous écoute.
Ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une demande qui s'accroît dans tout ce qui est électronique, parce qu'en fait, tout ce qui nous entoure devient connecté, devient intelligent, et donc il faut des puces. C'est pareil pour les machines à laver. On est entouré de smartphones, d'ordinateurs, et donc oui, cette pénurie, elle va durer 2023, 2024, peut-être au-delà, on ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est parti pour durer encore au moins 2 ou 3 ans.
Oui, aujourd'hui, dans une voiture telle qu'on les vend, il y a des puces partout. C'est ce que vous disiez dans n'importe quoi, d'ailleurs. Hein.
Oui, si vous regardez bien une voiture aujourd'hui, c'est devenu un ordinateur sur roue. L'affichage, il est numérique. On n'a plus de compteur à aiguille aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, les puces, elles servent à tout. Elles servent pour la sécurité. Elles servent aussi pour les chaînes de traction qui deviennent hybrides, électriques. Ces véhicules, en fait, il faut afficher l'autonomie. On affiche également tout ce qui est gestion de l'énergie à bord. Donc, des puces, il y en a plus d'un millier, en fait, à bord des voitures. Encore plus quand c'est un véhicule électrique. Et pour bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent, le semi-conducteur, en fait, c'est un composant clé qui entre dans la conception des puces électroniques. Donc sans semi-conducteur, on ne peut pas faire de puces. Et comme il faut des puces pour alimenter à peu près tous les objets qui nous entourent, vous voyez à quel point on en est aujourd'hui.
Alors cette pénurie de semi-conducteurs nous pousse à nous-mêmes produire des puces, hein, des semi-conducteurs. Tiens, à Grenoble, le mois dernier, Emmanuel Macron a lancé un grand chantier avec STMicro et Global Foundries. Alors il a lancé donc ce projet d'usine de fabrication de semi-conducteurs, mais ça va mettre un temps fou.
2026 pour effectivement une usine qui tournera à plein régime. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que l'Europe ne produit que 10% des semi-conducteurs dans le monde. Mmh. En fait, c'est essentiellement en Asie que ça se passe. Si vous regardez bien, le numéro 1 en fait des semi-conducteurs, c'est un Taïwanais. Il assure 50% de la production. Ceux qui produisent le plus, en fait, ce sont des pays comme la Chine, la Corée, le Japon et les États-Unis. L'Europe est loin derrière, et c'est pour ça que il y a d'abord un plan européen avec 43 milliards pour justement donc relocaliser en fait cette production de semi-conducteurs. Et fort heureusement, en France, il y a effectivement ST. Il y a aussi d'autres acteurs comme par exemple Soitec, qui est un petit sous-traitant qui fait donc des composants qui entrent dans notamment dans les puces qui vont pour les véhicules électriques. Donc on y vient, mais ça prendra des années, bien sûr, avant qu'on puisse corriger cet équilibre avec un centre de gravité qui reste encore un peu trop présent en Asie.
Oui, et puis les États-Unis s'y sont mis également. Hein, ce projet de loi adopté au Congrès il y a quelques semaines, promulgué par Joe Biden en présence des patrons de Micron, Intel, HP ou encore Lockheed Martin. Martin, 52,7 milliards de dollars. Joe Biden parle de la plus grande compétition commerciale du 21e siècle.
Oui, je crois qu'il a raison. En fait, si on prend du recul par rapport au Covid, on s'est aperçu qu'on était dépendant de l'Asie pour un ensemble de choses, parce que tout est fabriqué là-bas. Et ce qui est important aujourd'hui, alors qu'on a des problèmes par rapport à l'énergie, par rapport au conflit en Ukraine, il faut qu'on restaure une certaine forme de souveraineté. Et cette souveraineté, elle est aussi industrielle, elle est aussi technologique. Comme je le disais tout à l'heure, on a de plus en plus des objets connectés qui communiquent entre eux, qui ont besoin de puces. Donc effectivement, il faut que chaque continent soit capable, eh bien, de de produire, de subvenir aux besoins en fait de ces industries. Donc c'est pour cela que les États-Unis, mais aussi l'Europe, aujourd'hui ont décidé de lancer des gros chantiers. Je crois que c'est la bonne réponse, mais il va falloir un petit peu de temps, quelques années, avant que les choses ne puissent se lisser.
Laurent Meillot, vous entendez par là que tous ces grands projets, hein, gigantesques projets, n'ayons pas peur des mots, viennent un peu tard en fait. On a loupé le virage.
Oui, sans doute, mais... Et s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu cette prise de conscience, même si la technologie évolue à pas de géant. Disons que globalement, en fait, certaines parties du monde, et on peut citer notamment l'Europe, c'est vrai que l'Europe a baissé les bras et a laissé filer la technologie des batteries. Dans d'autres domaines, c'est aussi le cas. Il y a une prise de conscience grâce au Covid, et il faut s'en féliciter. Donc aujourd'hui, les bonnes décisions ont été prises. Il y a vraiment une volonté de la part des acteurs privés également. C'est quand même pas rien quand on voit un Intel qui a envie de dépenser des milliards pour s'installer en Europe et qui veut également s'installer en France.
80 milliards Intel, ouais, c'est ça, hein.
Voilà, c'est quand même sur 10 ans, c'est quand même considérable. Il y a aussi des acteurs, projetons-nous de l'autre côté du Rhin, un groupe comme Bosch, qui est également très présent dans l'automobile, va consacrer 3 milliards pour les semi-conducteurs, ce qu'il en produit également, adapté bien sûr aux véhicules électriques. Donc tout le monde y vient, il y a un effort collectif de la part du public, du privé. Mais encore une fois, on se prépare à quelques années encore difficiles et les délais de livraison vont rester encore très longs pendant un certain temps.
Et philosophiquement, est-ce qu'on n'est pas devenu nous-mêmes dépendants des voitures ultra connectées ?
Ça, de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Alors, en tout cas, sur l'électronique, on ne pourra pas revenir en arrière puisque en Europe, par exemple...
Oui.
La Commission instaure des normes, il faut de plus en plus de technologies pour améliorer la sécurité, et donc de toute façon, il faut cela. Après, l'Europe a décidé d'interdire les moteurs thermiques, on va vers l'électrique, donc qui dit voiture électrique dit voiture plus connectée et qui intègre encore plus d'électronique. Donc de toute façon, oui, c'est un peu un cercle, je ne sais pas s'il est vicieux, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des cycles qui s'enclenchent et que de toute façon, la réponse est technologique et la seule solution, c'est de produire plus et donc de produire localement.
Alors, écartons-nous un peu du sujet des semi-conducteurs. L'Union européenne se donne pour objectif de ne plus vendre de véhicules thermiques à l'horizon 2035 que des véhicules électriques ou semi-électriques, des hybrides comme on dit. Est-ce que c'est réaliste, rationnel, vu cette pénurie donc, qui va quand même durer encore quelques années, 2-3 ans, si j'ai bien compris votre propos, Laurent Meillot?
Oui, alors d'abord une précision, c'est qu'en 2035, ça sera des véhicules totalement électriques ou à hydrogène, donc il y aura les hybrides ne seront a priori plus autorisés non plus. Je pense que le fait de miser sur une technologie unique est sans doute une erreur, en tout cas elle sera très dommageable pour l'Europe qui jusqu'à présent avait une certaine expertise dans le domaine des moteurs et qui perd un avantage non négligeable. Après, ce qui n'a pas été pris en compte, ce sont les aspects justement annexes, hein, comme l'accès à des matières premières, l'accès à des terres rares. Et le problème qui se pose actuellement, enfin on le voit bien, c'est qu'il y a une flambée aussi des prix par rapport aux matières premières. Il y a le lithium, il y a le nickel, il y a tous les composants qui rentrent dans la batterie. Et effectivement, comme il faut encore plus de plus pour alimenter ces véhicules électriques, je crois que tout ça n'avait pas été pris en compte par Bruxelles, qui a voulu apporter une réponse politique ensuite au Dieselgate. Il a fallu en quelque sorte punir les constructeurs qui avaient menti en fait aux politiques. Mais ce que l'on voit, c'est que on navigue dans des eaux vraiment très troubles et justement cette pénurie des semi-conducteurs est là pour nous rappeler que c'est pas si facile que ça de passer d'un modèle à l'autre. Il aurait fallu sans doute se prévoir un laps de temps plus long et heureusement il y a une clause de voyure en 2026 qui permettra peut-être de faire un bilan d'étape et de voir s'il ne serait pas plus sage finalement de reculer de quelques années cette transition, le temps qu'on s'assure que toutes les chaînes d'approvisionnement seront là. Parce qu'en fait, le vrai sujet aujourd'hui, c'est les tensions sur les approvisionnements. Mmh. Et là, pour le coup, la dépendance, elle est réelle.
Et puis, un véhicule électrique aujourd'hui, c'est pas conforme à notre mode de vie. On met beaucoup plus de temps. On peut pas aujourd'hui faire un Paris-Marseille rapidement en voiture électrique.
Alors rapidement, non. Alors c'est possible de recharger sur l'autoroute, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de s'arrêter. Il y a aussi des moments dans l'année où il y a beaucoup de voitures et pas assez de bornes. Donc, ce ne sont que quelques jours dans l'année, mais si c'est ce jour-là que vous avez choisi de voyager, ça risque de vous refroidir. Donc, l'électrique ne pourra pas répondre à tout. Alors, c'est une très bonne solution pour la ville et pour un rayon d'action urbain, périurbain. Pour des grands trajets, aujourd'hui, le moteur thermique reste quand même une solution éprouvée. Donc, oui, l'électrique ne fera pas tout. C'est peut-être une erreur qui a été faite par la commission qui, partait d'un bon sentiment. C'était aussi par rapport au plan climat, l'accord de Paris. Parce qu'il y a une urgence climatique, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Maintenant, oui. Miser sur une seule technologie et fermer les portes à toutes les alternatives possibles, je pense que c'était peut-être pas forcément la meilleure décision.
Et si j'ai bien compris votre propos, concevoir, fabriquer une voiture électrique, ça pollue beaucoup aussi, puisque ces terres rares nécessaires à la fabrication des batteries, il faut les extraire. Et là encore, c'est très polluant.
Alors, oui, il y a effectivement une pollution, c'est vrai. Alors globalement, quand on fait l'ensemble du cycle de vie, la voiture électrique est quand même plus vertueuse. Il y a plusieurs études qui l'attestent. Ce qui est vrai, c'est que ce qui frappe l'imaginaire, c'est les batteries, c'est la conception en amont. Même si on prend que quelques grammes de lithium ou si on prend que quelques grammes de cobalt, c'est parfois fait dans des conditions qui sont discutables. Et il y a le recyclage qui est une vraie interrogation pour beaucoup de gens, même si finalement on sait faire et que des filières se mettent en place. Mais il n'y a pas de solution simple. L'électrique a été présentée comme étant l'alternative logique, inévitable et unique. Avec tous les obstacles qui sont en train de se dresser sur la route, finalement, avec les matières premières qui flambent, les semi-conducteurs, il faudrait qu'on prenne le temps un petit peu de réfléchir et de se dire, bon, est-ce qu'on a bien fait de miser tout là-dessus ou est-ce qu'on ne devrait pas se laisser quelques portes ouvertes ? Et des solutions, il y en a quand même quelques-unes encore qui sont en lice.
Et puis du côté des grands industriels français de l'automobile, on entend quelques dents grincer depuis quelques jours parce qu'aux États-Unis, alors, Joe Biden a fait voter un grand plan de transition.
C'est pour les critères d'éligibilité des aides à l'acquisition.
Voilà, 7500 dollars pour pouvoir acheter une voiture. Et les grands industriels français crient déjà à la concurrence déloyale.
Oui, et pas que, parce qu'en fait, il y a au moins 70 à 80% des voitures vendues aux États-Unis qui ne sont pas éligibles finalement à cette forme de bonus. C'est un bonus de 7 500 $ qui va être appliqué jusqu'en 2032, je crois, de mémoire. Et effectivement, donc, cette aide n'est accordée que si les batteries, que si les composants sont sur le sol américain. Or, aujourd'hui, il y a une dépendance qui est quand même asiatique, là aussi. Hein. Les batteries, elles viennent de Chine, elles viennent de Corée, elles viennent du Japon. Même si des gigafactories se développent un peu partout dans le monde, hein, que ce soit en Europe, en Amérique aussi, et en France, puisqu'on va en avoir également, là encore, on peut mesurer qu'on a quand même 10 ans de retard sur les Asiatiques et que ça va pas se corriger comme ça. Donc oui, cette solution électrique peut être très vertueuse, mais il y a aussi des côtés négatifs qu'il ne faut pas négliger.
Et qu'il s'agit
il y a une réalité qu'il faut voir en face.
Il s'agit d'anticiper, effectivement. Merci beaucoup, Laurent Meillot, de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé dans l'automobile. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Europe Soir.
Bonsoir.
Dans quelques instants, nous continuons de parler de la transition écologique. Ce sont nos modes de déplacement, les voitures électriques, mais aussi nos moyens de fournir de l'énergie. On parle beaucoup du photovoltaïque et des retards en la matière de la France. Nous en parlerons avec un directeur de recherche émérite au CNRS, David Linco. Ce sera juste après la pause. A tout de suite sur Europe.